Bocas de Ceniza, qui est une œuvre de Fernando Echavarria, je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Le titre, déjà, demande peut-être explication. C'est l'expression par laquelle les conquistadors ont désigné l'embouchure du Rio Magdalena sur la côte caraïbe, parce qu'ils l'ont découverte, dit-on, un mercredi des cendres. Et le nom est resté et il évoque ici les disparus ou les cendres qui ont été jetées dans le Magdalena et dans d'autres rios à travers le pays. Comme vous avez vu, en plan fixe, face à la caméra, ce sont des témoins des massacres, six hommes et une femme, et les massacres. En particulier le massacre de Bohaya. Ceux qui ont vu le film, le très beau film, très intéressant hier de Natalia Orozco, ont vu également ce village visité par des membres de la commission de négociation de paix à la Havane. Et c'est donc, comme vous l'avez vu, ces personnes, ces témoins des massacres, ces survivants, chantent des alabao, c'est des complaintes qu'ils ont eux-mêmes composées, et on voit seulement les visages, les regards, aucun pathos, une sobriété qui laisse à peine entrevoir la souffrance, et qui communique d'autant plus l'émotion, je trouve, une émotion intense. Donc ce sont les survivants eux-mêmes qui ont composé les paroles et qui les chantent. Ce sont, comme vous avez pu le voir, des gens modestes, des paysans, des afro-colombiens du Chocó pour la plupart, en majorité. Et chacun parle de son expérience, parle de ses proches, victime de la violence qui s'est abattue sur cette communauté qui a été le lieu d'un affrontement entre l'armée et les FARC et où il y a eu un massacre commis dans l'église du fait de ce que des bouteilles de gaz ont été jetées sur cette église par les FARC. Et l'autre, c'est un massacre commis donc par les paramilitaires dans la région d'Aracataca. Kataka, tout le monde connaît, puisque c'est la terre de Garcia Marquez, c'est le Macondo de Garcia Marquez, une région qui a également été dévastée par la violence. Alors, Bocas de Ceniza, que vous avez vu, est l'une des pièces marquantes de l'œuvre de Juan Manuel, j'ai dit Fernando tout à l'heure, mais non, c'est Juan Manuel Echavarria, et qui est d'ailleurs actuellement fait l'objet d'une rétrospective au musée d'art moderne, au Mambo, au musée d'art moderne de Bogota. Il s'agit d'un ensemble de travaux qui forment une chaîne qui combine photos, peintures, chants et vidéos. Et c'est une variation autour du même thème qui vise à composer une mémoire historique par la production, par les productions artistiques. Une œuvre qui s'étale sur une vingtaine d'années et qui filme des lieux et des personnes dévastées par la violence et qui expriment leur expérience et leur douleur à travers des créations culturelles comme celle-ci. Echavarria va fait son travail depuis une vingtaine d'années. Il va sur les terrains, il s'approche au plus près de la tragédie et il ne se borne pas à décrire ou reproduire le vécu des gens. Il crée une œuvre qui exprime la dimension existentielle, je dirais, et ce n'est pas si courant. J'irai assez vite, mais outre Bocage de Sénissa, je mentionnerai la Guerra que no hemos visto. La Guerra que no hemos visto est une production qui ressemble à un ensemble qui rassemble des productions des victimes. Non pas des productions de victimes cette fois-ci, sinon des peintures réalisées principalement par les auteurs de violence, par les guérilleros, des paramilitaires et des militaires, tous d'origine paysanne, d'ex-combattants sans grade, des simples soldats, des guérilleros, des paramilitaires de base. Et en fait, Echavarria a organisé avec eux, durant 2 ans, des ateliers qui ont réuni 80 démobilisés, des hommes, mais aussi des femmes. Et ils ont produit des 400 peintures au total. Et son projet ne poursuit pas un but thérapeutique particulièrement, mais les auteurs des tableaux leur accordent un pouvoir cathartique. Nous avons pu nous libérer, nous avons pu raconter quelque chose que nous n'avions jamais pu raconter, disent-ils. Dans la même optique, il y a une vidéo de Clemencia Echeverri que j'ai citée tout à l'heure, qui fait s'exprimer des auteurs de massacres gagnés par le remords, par le repentir. Une autre œuvre de Echavarria, intitulée Silencios, rassemble des photographies réalisées entre 2010 et 2017 d'écoles abandonnées dans différentes régions dévastées du pays, essentiellement Montes de Maria, mais aussi dans le Caquetá. Mais il y a une autre œuvre sur laquelle je veux m'attarder rapidement. Qui s'appelle Requiem NNE. Comme pour Bocage de Sénissa, c'est la métaphore du fleuve qui inspire ce film-là, une vidéo assez longue. À Puerto Berrio, je ne sais pas si on dit Puerto Berrio ou Puerto Berrio, toi qui es de cette région quasiment, on dit Puerto Berrio.
Oui.
À Puerto Berrio, qui est une ville d'une région les plus ravagées par les violences dans le Magdalena Medio, qui a subi, qui était une région au cœur de la violence dans les années 80 aux années 2000. Des habitants ont inventé et mis en place un rite qui est sans doute l'une des initiatives les plus originales et les plus émouvantes contre les violences, une conduite de résistance et de résilience qui s'ouvre d'en bas sans médiation ni politique ni associative ni religieuse ni militaire. Ce sont des riverains qui repêchent dans le Magdalena les corps de victimes anonymes, charriés par les eaux du fleuve, le plus souvent d'ailleurs des parties des corps mutilées, démembrées, et ils leur donnent une sépulture. Ils rebaptisent d'un nom ces cadavres, et un nom qui peut être celui d'un proche ou d'un parent disparu. Les dan un nombre para que no queden sin identidad, dit un personnage dans le film. Et le mort, ainsi adopté, ils disent escogido, est intégré dans le cercle familial. L'adoptant prend soin de la tombe, la fleurit, prie pour le repos de l'âme du disparu, parle avec lui, implore les faveurs, des miracles. Lequel disparu se voit doté d'un nouveau souffle, en somme, d'une vie d'outre-tombe. Il est ramené dans la communauté des humains, mais avec un statut qui évoque le monde des saints domestiques, des anges gardiens ou des dieux lards, comme on voudra. Et chaque ossuaire, chaque tombe est une petite œuvre d'art, Comme pour Bocas de Senissa, ce travail est un travail artistique sur ce qui est déjà une production artistique par les gens eux-mêmes. Et on est en présence d'une créativité à deux niveaux, comme dans toutes les œuvres de Chavarria, d'une double créativité, si on veut. Et Chavarria joue le rôle d'un créateur d'artistes, un rôle maïotique. Au lieu de victimiser les victimes, de les objectiver, il fait accoucher une œuvre d'art et la met en valeur et en révèle toute la portée. Alors, de modestes habitants donc, du Magdalena Medio pratiquent ainsi un rite discret mais puissant, un acte de protestation, de rejet de la barbarie, de refus de l'oubli et de la néantisation, pour conjurer la chaîne du mal, et dans les mots d'une adoptante, pour que ces morts échappent au sort d'avoir été jetés comme des animaux. Le pacte des adoptants avec les morts, souligne Chavarria, est un acte de résistance aux auteurs des violences et de reconstruction du tissu social. Une tentative de réparer ce qui a été déchiré. La réparation du tissu social ici est de la construction, et c'est inséparable, je veux dire, de la construction ou de la reconstruction d'un imaginaire religieux, de l'expression d'une foi, comme vous l'avez vu aussi dans Bocas de Senissa. C'est une dimension essentielle. A los muertos hay que darles cristiana sepultura. Ce n'est pas une exigence exclusivement chrétienne, comme en témoigne Antigone, elle est universelle, elle est propre à l'humanité depuis des temps lointains, depuis ses origines. Juste quelques mots en guise de conclusion, c'est que j'ai voulu, en montrant ces œuvres ou en les évoquant, esquisser un pont entre nos analyses scientifiques, de scientifiques sociaux, je veux dire, et des manifestations culturelles de l'année France-Colombie, qui en a montré beaucoup. J'ai voulu entrouvrir une fenêtre de dialogue avec des artistes qui font entendre la voix et donnent à voir le visage des témoins, des victimes et parfois aussi des bourreaux. Une démarche qui vise à sortir la guerre de l'abstraction, comme dit Chavarria lui-même, a donné chair à nos analyses, souvent sans images, distanciées ou hors sol. Les travaux auxquels je me réfère, ceux des Chavarria tout spécialement, mais il y en a de multiples autres, la Colombie pullule de travaux artistiques qui se réfèrent à la violence, et les expériences dans lesquelles ils s'ancrent, ces travaux, laissent entrevoir la tragédie. Ils disent la nécessité de lutter contre l'oubli et ils disent l'exigence de justice. Ils illustrent de façon emblématique un art de la mémoire, et je cite des mots de Walter Benjamin, un art de la mémoire qui ne soit pas simple registre de faits passés, mais demande de justice au présent. Il ne constitue pas seulement un récit du conflit, une mémoire historique, il cherche aussi des réponses à la question comment en sortir. Des réponses partielles, tâtonnantes, hésitantes, significatives et émouvantes parce que fragiles, je dirais. Je voudrais pas terminer sans souligner les limites de la création artistique. Il n'est pas sûr qu'elle transforme l'action, qu'elle efface la douleur ou comble le manque. Je n'ai pas envie de vous dire que l'art va nous sauver. Je pense qu'il faut continuer à jouer, mais je ne me sens pas le messie investi d'une mission, déclarait le metteur en scène de théâtre Julien Gosselin lors du Festival d'Avignon de l'année dernière, 2016, au lendemain de l'attentat de Nice. et un nombre des œuvres présentées à Avignon évoquaient le terrorisme et les tueries de masse. À ces paroles font écho et nuance peut-être celle de Johanna Callier, dont vous avez vu les dessins hier à la Maison d'Amérique latine. Vous ne l'avez pas vu, vous pouvez les voir. L'art, Johanna Callier, artiste colombienne, dit ceci: l'art ne change rien à la vie des victimes d'injustice, mais dans ce pays, le sien, la Colombie, en parler fait une petite différence. Je laisse le dernier mot à Juan Manuel Echavarria qui dit: y si eso no merece ser contado, entonces qué? Voilà, termine là-dessus.
Merci, Yvon.
Merci beaucoup. Donc, effectivement, je me place sur un autre type de discours, puisque je pense que depuis hier, malheureusement, je n'ai pas pu assister à la session de hier, mais je pense que depuis hier, les discussions ont tourné autour de très diverses dimensions de ces processus de sortie de conflit au sens large, qui sont si difficiles à définir. On peut les aborder effectivement de multiples façons. Les approches mémorielles seront abordées tout à l'heure. Les questions de participation politique et de justice transitionnelle sont actuellement au cœur du débat politique en Colombie et le seront très, très certainement l'année prochaine dans le cadre des élections présidentielles et législatives. Pour ma part, je pense qu'il y a une dimension qui a été centrale dans toutes les négociations avec les FARC, qui est centrale dans le débat politique depuis des années et qui nous apprend quelque chose de plus de ces processus de sortie de conflit, c'est la dimension économique. Et dans ce cas en particulier, dimension économique, notamment centrée sur la question des terres. Terres qui sont au cœur des conflits sociopolitiques en Colombie depuis des décennies. Sans avoir besoin de remonter encore plus loin, terres qui surtout sont au cœur du cycle actuel de violence, de la genèse de multiples groupes armés, aussi bien du côté de la guérilla que du côté des groupes paramilitaires, et terres aussi qui ont constitué l'un des éléments importants du contexte politique, on va dire de la séquence politique qui est ouverte avec l'élection de Juan Manuel Santos à la présidence de la République en 2010, et ses ouvertures vers des possibilités de sortie négociée du conflit. Alors, outre la dimension éminemment centrale de ces conflits fonciers dans l'histoire colombienne, il est nécessaire aussi de souligner que la question des terres a fait l'objet d'un investissement très fort ces dernières années de la part de multiples acteurs politiques qui ont vu dans le contexte de sortie de conflit la possibilité justement de faire avancer des revendications politiques anciennes, des revendications parfois allant dans le sens de la redistribution de terres ou même de multiples réformes également. Mais j'aimerais me placer sur un terrain un petit peu différent et réfléchir aux transformations économiques globales auxquelles participent ces contextes de sortie de conflit. Dans ses travaux sur l'économie politique de la démocratie, Timothy Mitchell reprend les travaux du philosophe français Jacques Rancière et dit: les moments de rupture sont des moments de redistribution entre ce qui relève de l'ordre ou du domaine de la démocratie, du politique au sens large, c'est-à-dire des choix collectifs, et ce qui relève du domaine du marché, c'est-à-dire des lois supposées, enfin des supposées lois de l'économie. C'est intéressant parce que ces moments de rupture, dont les situations de post-conflit font partie, font justement apparaître ces conflits sociaux qui cherchent à placer une question, en l'occurrence celle des terres, plutôt du côté des choix collectifs ou plutôt du côté de l'économie, vu comme ce domaine dans lequel s'expriment des forces abstraites. Alors, si on aborde, enfin, ma proposition est justement d'aborder ce contexte de post-conflit en Colombie de ce point de vue-là, c'est-à-dire en regardant quelles sont les forces opposées qui s'expriment autour de ce contexte de sortie de conflit, quelles sont les demandes opposées, les tensions qui émergent, et puis du coup, les façons dont les acteurs, et en premier lieu desquels l'État, produit des politiques publiques, et cherche à régler ces contradictions. Contradictions très nombreuses parce que la situation de sortie de conflit en Colombie actuellement, mais c'est le cas, ça a été le cas dans des très multiples contextes sociaux, dans des cas en Afrique, en Asie, en Amérique centrale, et ce contexte de sortie de conflit génère des demandes contradictoires. D'un côté, des revendications d'une partie des acteurs sociaux, parmi lesquels les FARC d'ailleurs, profiter justement de ce moment de négociation des rapports sociaux pour avoir des nouvelles formes de distribution des ressources, et donc de la ressource foncière en particulier. Et des mouvements paysans s'associent évidemment à ces demandes, et d'autres acteurs politiques également. De l'autre côté, beaucoup d'acteurs voient aussi cette situation de sortie de conflit ou de pacification comme le moment de profiter d'une nouvelle stabilité pour positionner la Colombie sur des marchés internationaux, des marchés de matières premières, pour ouvrir des nouveaux espaces à la production agro-industrielle, par exemple, des espaces qui étaient auparavant fermés à ces formes ou très difficilement exploitables par ce type de mise en valeur des terres. Et donc cela crée évidemment des tensions. Alors, quelles sont... quels sont du coup les processus contradictoires qui s'expriment dans ce contexte-là? Il me semble qu'il y a, si l'on cherche à schématiser, deux processus opposés, mais qui sont parallèles et qui participent à ce même contexte actuel dans lequel finalement on ne sait pas trop vers quoi on se dirige. D'un côté, il y a une dimension que l'on peut appeler une dimension de patrimonialisation, c'est-à-dire essayer de sanctuariser des espaces dans lesquels, justement, ça serait des espaces dans lesquels le politique déciderait de l'allocation des ressources naturelles, dans lesquelles l'allocation de ces ressources naturelles serait le fruit de choix collectifs, que ce soit de la part de mobilisation sociale, que ce soit de la part d'organes représentatifs de certaines populations, par exemple les populations paysannes ou les populations ethnicisées, définies selon des critères ethniques. Et ce processus de patrimonialisation est depuis quelques années très prégnant en Colombie, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, ça commence même pendant la période de la très forte intensité des violences, l'idée selon laquelle il faut justement protéger certains espaces, à la fois des violences et des acteurs du marché qui pourraient profiter de ces violences. À l'opposé, il y a un processus, une dynamique que l'on pourrait appeler, que je propose d'appeler de marchandisation, mais non pas marchandisation dans le sens unique de mise sur le marché, mais marchandisation dans le sens de transformation de la terre, de la ressource foncière, en marchandise librement échangeable et abstraite, en quelque sorte, pour reprendre les travaux de Carpolani. Alors là aussi, c'est une dimension qui est très forte actuellement en Colombie et qui l'est depuis des années. Pour ne pas remonter très loin, déjà à l'époque de la présidence d'Álvaro Uribe, il était question de justement lever les obstacles pour la mise sur le marché de nombreuses parcelles qui avaient été abandonnées par les paysans déplacés, enfin victimes de déplacements forcés. Même la loi de restitution de terres, la loi de 2011, avait été critiquée par certains comme ayant poursuivant un double objectif, celui d'un côté de favoriser un retour vers les campagnes de déplacés, mais de l'autre côté aussi de fluidifier un marché foncier, créer un marché moderne, etc. Même l'une des dispositions importantes des point 1 des accords de la Havane prévoit aussi la formalisation des terres qui est évidemment une façon de défendre, de protéger les droits des occupants sans titre, mais qui est aussi une façon de moderniser le marché. Et actuellement, on est dans des débats qui peuvent paraître des débats techniques autour du cadastre, mais qui sont en réalité des débats éminemment politiques sur les représentations de la propriété et sur la place de la propriété dans ces politiques actuelles de sortie de conflit. Alors, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire de la prospective à partir d'ici et de vous dire que la sortie de conflit colombienne s'achemine vers une marchandisation de haute une marchandisation massive des terres colombiennes, mais plutôt de montrer la précarité de ces équilibres auxquels les négociations avec les FARC ont abouti. Parce que d'un côté, les FARC ont réussi à faire à défendre une partie de leur agenda agraire, mais en aboutissant quand même à des accords très conservateurs, enfin très centriste pour le dire simplement, enfin très une approche libérale de la propriété et finalement est très peu révolutionnaire justement. Dans l'idée, me semble-t-il, enfin c'est mon hypothèse et qui s'étaye sur des données diverses, de dire bon bah on va négocier, on va se transformer en parti politique, on va faire valoir nos revendications qui sont beaucoup plus larges sur l'économie agraire, l'économie paysanne, l'économie familiale, etc. On fera valoir ça dans un second temps. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans le flot des controverses sur la place des FARC dans le jeu politique de la Colombie demain, c'est beaucoup d'acteurs des FARC se trouvent à défendre les acquis des accords de paix, et que l'on peut craindre justement que cet agenda agraire qui pouvait donner lieu à des transformations très ambitieuses puisse passer à un second plan. Mais tout ça, c'est de la prospective et je ne m'aventure pas là-dedans. Je voudrais juste terminer par un élément. C'est que si ces dynamiques de patrimonialisation et de marchandisation, telles que j'ai essayé de les définir, s'expriment sur le territoire, et si finalement aujourd'hui ce que l'on observe c'est une fragmentation du territoire autour d'espaces par exemple territoires définis en termes ethniques, qui donc seraient plus ou moins extraits aux lois du marché, et à côté des grands espaces définis au contraire comme des lieux dans lesquels une agriculture agro-industrielle pourrait prendre son essor, justement du fait de la stabilisation, la pacification du pays. Je pense notamment aux plaines de l'Orénoque qui sont au cœur de l'agenda de développement agro-industriel de l'État colombien pour le futur. Si on observe effectivement une certaine forme, mais c'est évidemment très schématique, de fragmentation du territoire autour de ces dynamiques contradictoires, on ne peut que s'inquiéter du fait, ou en tout cas si on s'intéresse à, si on fait un lien entre redistribution et clôture, on va dire, du cycle de violence actuel, on ne peut que s'inquiéter du fait que finalement ces territoires quelque peu sanctuarisés, ces territoires extraits à la loi du marché, ne le sont qu'en vertu d'accords très précaire et finalement l'agriculture paysanne, l'agriculture familiale est en passe d'être définie en Colombie comme dans de multiples pays du Sud, non pas comme un modèle économique à part entière de mise en valeur des ressources foncières et des ressources naturelles, mais comme un espace à préserver en raison d'une situation politique, la situation présente, mais tout pourrait changer dès lors que l'équilibre des forces ne serait pas le même. Je vous remercie.
Merci. Bueno, agradezco mucho esta invitación a participar en este coloquio sobre Colombia. Y voy a leerles un texto que se llama El verdadero nombre de la paz. Los estudiosos de la historia de Colombia habrán advertido repetidas veces que los procesos de paz que diseña la dirigencia colombiana nunca traen la paz al país. A veces logran un alivio momentáneo de las tensiones sociales, como en la amnistía a los guerrilleros liberales de los años 50. A veces crean la ilusión de un gran cambio histórico que los meses se van encargando de atenuar, como en la reinserción del M-19. A veces desencadenan nuevas violencias, como los diálogos con las FARC en tiempos de Belisario Betancur, que produjeron el holocausto de la Unión Patriótica, o como los diálogos del Caguán, que intensificaron la violencia paramilitar. Ello debería enseñarnos no que la paz no es posible, sino que es compleja y que requiere enfrentar en su profundidad las causas de la violencia y hacer un esfuerzo por corregirlas. Mientras los procesos sean parciales, es un error llamarlos la paz, porque se generan unas expectativas que la realidad no tarda en disipar. Hasta ahora, la característica común de esos procesos es que siempre procuran señalar la responsabilidad de uno de los bandos, guerrilleros liberales, M-19, FARC, paramilitares, pero la dirigencia nacional siempre se absuelve a sí misma. Es más, siendo grandemente responsable de las condiciones que producen la violencia y que la prolongan, la dirigencia que formatea esos procesos siempre es la que juzga y la que perdona, o la que acusa y prohíbe el perdón. Más que otras veces, ahora se ha llamado pomposamente paz al proceso de desarme y desmovilización de las FARC, aunque nadie ignora que es largo el camino que va de La Habana a una paz verdadera. Por varias razones. Una, porque el conflicto con las FARC, siendo tan largo y tan costoso en vidas y en recursos, es apenas uno de los muchos conflictos que vive Colombia. Existen otras guerrillas, existe la violencia del narcotráfico, existen las bandas criminales, el nombre que ahora reciben los paramilitares al servicio del narcotráfico aliados con la delincuencia común. Existen muchas formas activas del crimen organizado, múltiples formas de economía ilegal, algunas altamente depredadoras de la naturaleza y un creciente fenómeno de corrupción que agrava el sentimiento de desamparo de las comunidades y su desencanto ante la política. Como la naturaleza, la violencia colombiana le tiene horror al vacío, y en su caldo de cultivo no se puede hacer desaparecer a un actor violento sin que venga otro a reemplazarlo enseguida y a veces con mayor ferocidad. Las FARC, por ejemplo, eran crueles e implacables en su lógica de secuestros y asaltos, pero como necesitaban de los campesinos, tenían que obrar como un escudo de protección para los pequeños cultivadores desamparados por el Estado, de modo que su desaparición en el contexto de un Estado que tiene dificultades no solo para reemplazarlos en sus funciones, sino para garantizarles incluso su segura desmovilización, podría dejar a los cultivadores en manos de la violencia sin freno de las mafias. Es el caso en que males más impredecibles reemplazan a los males conocidos. Un proceso de paz tendría no solo que prever estas cosas, sino que estar en capacidad de resolverlas, si no quiere obrar como el aprendiz de brujo que libera una fuerza y después no sabe cómo contenerla. Además, de algún modo habría que aprovechar esas fuerzas antes ilegales que pueden volverse aliadas del Estado para que contribuyan al avance de una mínima institucionalidad que le sirva a la gente sin violencia y con beneficios reales. El diálogo reciente careció de un proyecto de juventudes en un país donde los jóvenes son la guerra. La prueba de que este es un conflicto parcial es que el proceso de diálogo se centró en asuntos agrarios, siendo Colombia un país donde el 80% de la población está en las ciudades. Miles y miles de jóvenes sin oportunidades, sin educación, sin un proyecto de vida que les ofrezca dignidad y seguridad, tienen que venderse a la violencia porque solo la violencia les brinda algún ingreso. Quien esté interesado en la paz de Colombia tiene que considerar una estrategia de ingreso social que les brinde a los jóvenes la posibilidad de sobrevivir y capacitarse, cumpliendo tareas que fortalezcan su sentimiento de pertenencia a la sociedad y su compromiso con ella. En un momento de la historia en que el mundo entero requiere planes de reforestación, protección de la naturaleza, cambio de paradigmas en el modo de vivir y de consumir, recuperación de valores esenciales, solidaridad, acompañamiento de sectores vulnerables, liderazgo cultural y reinvención de los modelos de emulación social, es prioritario brindar a los jóvenes la oportunidad de protagonizar los cambios civilizados para lograr incluso algo asombroso, pero harto posible, que la proverbial abnegación de los jóvenes les permita ser ejemplares para una sociedad que nunca supo ser ejemplar con ellos. La dirigencia le ha fallado tanto al país que cierto rechazo popular a los acuerdos se debe a la creencia de que les van a dar a los reinsertados oportunidades que el resto de la sociedad no ha tenido. Lo alarmante del plebiscito de octubre de 2016 no es que el no haya ganado con el 20% de los votos, y ni siquiera que el sí apenas haya obtenido menos del 20%, sino que el 80% de la población le haya dado la espalda a un proceso que era una gran oportunidad para el país. Porque una indiferencia del 60% y un rechazo del 20% prometen poco en términos de aclimatación social de una paz que no puede llegar si la ciudadanía no se la apropia, una paz que en realidad ni siquiera hay que hacer con la ciudadanía, sino en la ciudadanía. La paz tienen que ser los ciudadanos. Solo ellos pueden ser la convivencia y la reconciliación, solo ellos pueden ser el perdón y la memoria, la solidaridad y la construcción de otra dinámica de la vida en comunidad. El crecimiento actual de los cultivos ilícitos nos debe recordar que la hoja de coca es uno de los únicos productos de la pequeña agricultura colombiana que tienen demanda y consumo en el mercado mundial. Bien sabían los funcionarios de Naciones Unidas que formularon el malogrado proyecto de diálogo del Caguán, que no sería posible un proceso de paz sin una suerte de plan Marshall para la reconstrucción del campo colombiano, que no fue arruinado solo por la guerra, sino por una política de desmonte de la agricultura, un cierre de oportunidades para los pequeños productores y un retroceso de la economía al extractivismo del siglo XVI. Diseñar la economía pensando solo en vender las riquezas naturales, explotando el suelo desnudo, despojó de estímulos al trabajo. Vulneró la ética del trabajo, estimuló el culto a la riqueza sin esfuerzo y fortaleció la corrupción, porque las sociedades vigilan y defienden sobre todo lo que es fruto de su esfuerzo, la economía que brinda subsistencia, pero también sentido de pertenencia y dignidad. Si el mundo quiere la paz de Colombia, no puede seguir consumiendo solo su petróleo, su carbón y su cocaína. Tiene que contribuir a la reconstrucción de la economía real, que podría ser una floreciente alianza de la productividad con el conocimiento en uno de los países más biodiversos del mundo. Ya la economía cafetera que le permitió al país vivir modestamente pero con dignidad durante 100 años, ha demostrado que hay formas posibles muy refinadas de participación de una sociedad campesina en el mercado mundial. La producción cafetera, democrática, sofisticada y ejemplar, tendría que ser un modelo, aunque estoy lejos de pensar que en nuestra época podamos vivir solo de la pequeña producción campesina. Pero también hay una combinación alarmante en Colombia. Una clase terrateniente que es dueña de la mitad de la tierra productiva, pero que no tiene ninguna vocación empresarial. A nadie le importaría de quién es la tierra si produjera lo que puede y tributara lo que debe. Pero esos millones de hectáreas, a la vez confiscadas e improductivas, la cósmica ineptitud de un modelo de propiedad que solo adora el alambre de púas, están en la base de muchos de nuestros males. La corrupción de hoy, la danza de los millones en la contratación pública, que ha corrompido la ley y la justicia, reposa sobre una corrupción anterior. La privatización de los mecanismos electorales, la construcción de un estado de privilegios que se reelige manteniendo a la ciudadanía en la ignorancia y en la indiferencia. Esa es la otra violencia que está en la raíz de todo y que hace que cada 10 años haya que hacer una reinserción de guerreros, pero que nunca se haga el urgente proceso de paz entre el Estado y la sociedad, entre la vida y la política. Solo una cosa podemos esperar hoy: que la expectativa que ha despertado en un sector consciente de la sociedad el proceso de diálogo y la desmovilización de las FARC, unido al tremendo desprestigio de la dirigencia colombiana, a la que le interesa mucho desarmar a los insurgentes, pero no abrirle horizontes de participación y de iniciativa a la comunidad, despierte en sectores cada vez más amplios la necesidad de un nuevo proyecto de país y el afán de hacer realidad unas reformas económicas y sociales que han sido aplazadas por muchas décadas, y la condena histórica a una dirigencia que persiste en su mezquindad y en contagiar su discordia. No solo los mercaderes que envilecen la política, sino los grandes poderes económicos que se lucran de la miseria, de la depredación de la naturaleza y de la entrega del país al pillaje legal e ilegal. El verdadero nombre de la paz en Colombia es democracia. El fin de las maquinarias y el diseño de una economía que beneficie por fin a la gente y sincronizar la agenda nacional con la urgente agenda del mundo: energías limpias, protección de la naturaleza, detener y revertir el cambio climático, poner a la comunidad en el primer lugar de las prioridades y convertir la cultura en el dinamizador de una sociedad de creación. Muchas gracias.